Les rendez-vous santé d'Africa Radio, la prévention, en partenariat avec Santé publique France.
Les antibiotiques sont des médicaments qui servent à lutter contre les infections dues à des bactéries. Et les bactéries résistantes sont devenues insensibles à ces médicaments. On parle donc dans ce cas de résistance aux antibiotiques. En Europe, le Centre européen de contrôle des maladies évalue à 25 000 le nombre de décès par an résultant de la résistance aux antibiotiques. En France, en dépit d'un plan national pour préserver l'efficacité des antibiotiques, la consommation d'antibiotiques reste anormalement élevé. En 2017, il a été vendu en France 759 tonnes d'antibiotiques destinées à la santé humaine et 499 tonnes d'antibiotiques destinées à la santé mentale. Notre invité Anne Verger-Carbone est avec nous, responsable d'unité infection associée aux soins et résistance aux antibiotiques. Merci d'être avec nous. Alors justement, on va commencer avec ces chiffres. En 2017, il a été vendu en France 759 tonnes d'antibiotiques destinées à la santé humaine, 499 tonnes d'antibiotiques destinées à la santé animale. Que disent ces chiffres, selon vous, Anne Verger-Carbone? Bonjour.
Bonjour. Ces chiffres montrent que c'est effectivement une prescription importante de médicaments chez l'homme et chez l'animal, même si chez l'animal, en France, on en prescrit moins à ce jour, grâce à des politiques très drastiques de contrôle de la consommation. Et chez l'homme, alors, elles veulent dire déjà... Elles ne veulent pas dire grand-chose dans leur ensemble. Il faut rapporter ça au nombre d'habitants.
Oui.
Par rapport à d'autres pays, comme en Europe, où on compare ces consommations pour 1000 habitants, on n'est pas si mal placé. Enfin, on n'est pas dans les meilleurs, on est à peu près dans la moyenne. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Ces dernières années, la consommation diminue, en particulier... En établissement de santé, mais aussi en ville.
Oui.
Et donc ça, c'est plutôt bon signe, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire et on espère réduire de 20-25% la consommation dans les 5 années à venir.
Alors justement, on a eu de nombreuses campagnes de prévention sur les antibiotiques et des phrases qui reviennent, qu'on n'oublie pas. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Par exemple, il y a quelques années, c'était le message qui était adressé aux Français.
Mmh. Oui, c'est un message qui a très bien marché, puisque la consommation a bien réduit à ce moment-là grâce à ce message. Et c'est vraiment toujours d'actualité, même si on ne peut plus le réutiliser en tant que tel en termes de campagne de communication. Mais c'est un message qui est toujours d'actualité et qui reste dans les mentalités. On l'entend quand même, les gens ont gardé cette notion. Après, le dire et après le mettre en pratique quand on a chez soi un petit enfant qui est malade ou soi-même quand on se sent pas bien et qu'on se dit demain j'ai une réunion, il faut que je sois en forme. Voilà, il faut tenir, il faut aller voir son médecin et vraiment garder ça en tête que c'est pas automatique.
Avant de parler des résistances, qu'est-ce qu'un antibiotique? Quel est son fonctionnement?
Alors, les antibiotiques sont des médicaments qui détruisent les bactéries ou qui inhibent leur croissance. Et donc, ils agissent sur différents niveaux de la bactérie. Je ne peux pas rentrer dans les détails trop scientifiques, mais enfin, bon, c'est au niveau soit de la paroi bactérienne, soit de son chromosome.
Oui.
Et donc, ils sont très importants pour traiter les maladies bactériennes. Clairement, mais ça n'agit pas sur les virus.
Alors c'est important quand même de rappeler que l'antibiotique, c'est l'une des découvertes les plus importantes de la médecine qui a sauvé et qui continue de sauver des millions de vies chaque année à travers le monde. Mais leur efficacité est menacée car les bactéries peuvent s'adapter et résister au traitement. Quelles sont ces bactéries et est-ce qu'il y a des bactéries qui résistent à tous les antibiotiques?
Oui, alors en fait, au fur et à mesure des contacts entre les bactéries et les antibiotiques, elles développent des résistances, que ce soit par des mutations, c'est-à-dire que les bactéries mutantes vont se développer par rapport aux autres sous la pression des antibiotiques, ou bien les bactéries résistantes vont se transmettre entre patients, entre personnes,
oui.
Et puis aussi elles peuvent se transmettre entre elles leurs mécanismes de résistance. Quand ceux-ci sont portés par des génomes qui se transmettent d'une bactérie à l'autre. Alors, Votre question concernait, est-ce qu'il y a des multi résistantes? Oui, il existe des bactéries résistantes à plusieurs antibiotiques. Il y en a même qui résistent quasiment à tous les antibiotiques. Aujourd'hui, c'est très rare qu'on ne puisse plus du tout traiter un patient. Mais le problème, c'est plus le délai qu'on va prendre, puisque on ne va pas savoir immédiatement qu'il est infecté avec une bactérie résistante. Donc, on va utiliser des antibiotiques qui ne vont peut-être pas être efficaces tout de suite. Et quand on aura la réponse des antibiotiques qu'on va pouvoir utiliser, le patient sera peut-être plus en très bon état. Enfin, c'est ça qui est compliqué, c'est le délai que ça va introduire dans le traitement. Alors, est-ce qu'il existe... aujourd'hui, il existe quelques bactéries très résistantes aux antibiotiques. Maintenant, en France, en tout cas, on arrive toujours à peu près à traiter les patients.
Alors, nous allons écouter un petit micro-trottoir. Alors, en France, en dépit d'un plan national pour préserver l'efficacité des antibiotiques, la consommation d'antibiotiques reste anormalement élevée. On le disait tout à l'heure, il a été vendu 759 tonnes d'antibiotiques destinées à la santé humaine. La consommation d'antibiotiques est-elle vraiment une pratique courante? C'est la question à laquelle vont répondre les personnes rencontrées dans les rues de la capitale par Edouard. On les écoute et on se retrouve juste après.
Par exemple, les plantes, la médecine. La médecine douce, tout ce qui concerne les petits cachets à base de plantes. Par exemple, pour ne pas citer l'arpadol, c'est une racine en fait qui est traitée, qui est mise en poudre. Ça traite les douleurs de dos, les courbatures, voilà.
Non, moi je ne prends aucun antibiotique quand je suis malade. Je ne fais pas grand-chose, je reste chez moi et c'est surtout du repos, du sommeil et du repos et... je laisse un peu Dame Nature faire son travail et mon corps travailler lui-même sans antibio. Parce que j'ai peur qu'après, si je prends trop d'antibio, le jour où je suis vraiment malade, ça fasse plus effet et du coup que ça dure plus longtemps. Donc j'évite le plus possible d'en prendre.
Non, j'en prends pas vraiment. Parce que tout d'abord, parce que je suis pas un grand adepte des médicaments. Et que pour moi, quand je suis malade ou que j'ai une petite douleur, par exemple un petit mal de tête, je considère que le sommeil est le meilleur des remèdes. C'est peut-être pas la bonne solution, mais en tout cas, c'est ce que je préconise.
Alors, en règle générale, quand je suis malade, si c'est une angine ou une grippe, je vais voir mon médecin. Et mon médecin, je lui demande de pas me prescrire des antibiotiques. Et en règle générale, le médecin me dit, soit vous prenez, vous allez en parapharmacie et vous prenez l'équivalent en plante, voilà. Tout simplement parce que j'utilise pas d'antibiotiques parce que c'est pour moi c'est pas enfin pour moi ça me correspond mais c'est pas bon pour ma santé en fait parce qu'en fait on guérit avec un antibiotique on va guérir une cause mais ça va détruire autre chose ça va abîmer autre chose dans le corps humain donc je préfère prendre des plantes c'est plus long à guérir mais c'est efficace.
On voit que les personnes interrogées principalement sont un peu méfiantes hein, des antibiotiques. Alors on termine avec un auditeur qui dit alors moi je veux pas pour guérir une cause que ça engendre autre chose. Est-ce que c'est le cas ?
Oui, c'est sûr que les antibiotiques étant des agents antibactériens et comme le corps humain est constitué majoritairement de bactéries. Bien sûr que les antibiotiques vont avoir un effet sur la flore, sur notre flore digestive, etc. Mais c'est un effet temporaire. Et puis, dès que les antibiotiques sont arrêtés, notre flore reprend le dessus. Mais c'est vrai que c'est une perturbation de notre organisme. Il ne faut pas le nier. Et que ça fait partie des éléments qui sont pris en compte pour dire on ne prescrit pas des antibiotiques n'importe comment. Ce qui me choque un peu dans tous ces micro-trottoirs, c'est pas juste les plantes, mais aussi le fait que les gens pensent décider d'eux-mêmes qu'ils vont prendre ou pas des antibiotiques, ouais. Alors que c'est vraiment une prescription médicale. Il n'y a qu'une personne qui a parlé qu'il allait voir son médecin et qui lui disait « moi, j'en veux pas ». Voilà. Alors, c'est plutôt positif par rapport au sujet du risque d'antibiorésistance qu'on a entendu, mais par contre, c'est un petit peu ennuyeux par rapport à l'autoprescription. Ouais. En France, on a la chance que les antibiotiques ne soient disponibles qu'en pharmacie et sur prescription médicale.
Ouais, c'est très surveillé.
Mais ça, attention, à d'autres pays hein, où on peut acheter les antibiotiques n'importe où, sur le marché et dans des boutiques, et s'auto-médiquer, comme on dit. Hein. Donc ça, attention à l'automédication. Les plantes, ok, on peut en prendre... certaines peuvent être dangereuses aussi, mais enfin, c'est en général moins, moins sous prescription médicale, mais pas les antibiotiques.
Alors, on va y revenir plus en détail dans un instant. Oui. Il y a un auditeur au téléphone de la radio africaine, c'est Jomo de Bank. Bonjour Jomo, bienvenue dans l'émission. On vous écoute, allez-y, bonjour.
Oui, bonjour Aïssa, bonjour à tout le monde et bien de choses à Valérie, là où elle se trouve. Hein.
Alors, Jomo, voilà. Vous écoute sur le sujet.
Moi, j'ai déjà travaillé dans le domaine, vous savez que j'ai travaillé en PMI, donc connaissant aussi le milieu dans lequel je vis, je suis originaire, bien sûr. Je sais que le fait que l'antibiotique ne peut pas travailler, c'est le fait de ne pas prendre le taureau par les cordes. Parce que généralement, quand on est malade, on se dit non, ben attends, je reste à la maison, je fais ceci, ou on va voir le petit guérisseur du quartier, là, ou quelqu'un qui connaît deux ou trois trucs, on te le donne.
Oui.
Mais plus la maladie, elle est vite soignée, plus l'antibiotique réagit vite. Mais quand on laisse la maladie traîner dans le corps, quels que soient les antibiotiques, c'est vrai que la France, on fait quand même
En fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on a tendance à attendre trop longtemps avant d'aller voir le médecin lorsque...
Non, j'ai pas fini. Je te dis que oui, non seulement on attend trop,
ouais.
Mais aussi on se dit, je vais voir l'antibiotique, ça va rien me donner parce que j'ai eu ça avant et j'ai fait ça, ça m'a fait ça. Donc, ces trucs-là sont des causes à effet. Du coup, pour donner du sens et de l'efficacité à l'antibiotique, il faut s'y prendre tôt et aller au bon moment et voir la bonne pathologie. Parce que pour un mal de tête, il y en a qui vont te dire « prends ça, parce que moi j'ai pris ça, ça m'a fait ça ». Mais non.
C'est vrai qu'on a tendance à un peu réutiliser, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en hors antenne, Anne-Bergine Carbone, réutiliser les médicaments qu'on a déjà dans nos pharmacies, ou par
Absolument.
Exemple dans le cas lorsqu'on a un enfant, qu'on a du mal à avoir un rendez-vous chez son pédiatre, on se dit « bon bah je sais ce qu'il a, j'ai le médicament, je vais lui donner et puis ça va passer ».
Par expérience, vu que j'ai travaillé avec les bébés, par expérience, il y a des personnes, on leur dit, venez, parce que normalement, moi, je travaille en PMI, la PMI, c'est de la prévention.
Oui,
de la prévention. Mais les gens, ils attendent que l'enfant soit malade avant de venir à la PMI. Et nous, le temps de les accompagner jusqu'à l'hôpital, la maladie ne s'arrête pas. Le microbe, il commence à se multiplier, Mais il fallait s'y prendre tôt, en fait. Et les gens prennent au dernier moment. Ou de dire, bon, ben voilà, je donne un exemple d'un ami que je connais bien. Je connais Mouadou dans d'autres régions. Mouadou, là, c'est ce qui a fait ça. Mouadou, Kaminga, Menga. Et après, maintenant, Mouadou ne peut plus et l'hôpital ne peut plus. Ça devient difficile.
Merci.
Voilà. Donc, la seule chose que je peux leur dire, c'est quand ils sentent mal, il faut directement aller voir le médecin. Voilà.
Merci beaucoup, Jomo, pour cet appel. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Vous voulez réagir peut-être?
Mais il y a beaucoup de choses dans cet appel et qui est tout à fait juste dans les réflexions. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux par rapport à l'infection quand elle survient. Donc, il y a les infections virales pour lesquelles, là, il vaut mieux, comme disait monsieur, rester chez soi et se reposer et prendre un peu d'antipyrétique, mais quand même consulter son médecin, parce qu'il faut le diagnostic d'infection virale, c'est le médecin qui le fait.
Hein,
c'est
pas avec un test, notamment.
Alors, avec des tests, par exemple, de recherche de virus grippal, mais aussi pour les angines, il y a un test qui permet d'identifier si l'angine, elle est bactérienne ou virale, et si elle nécessite des antibiotiques. Ça, c'est des choses que le médecin peut faire. En tout cas, en France, ça, c'est possible.
Et souvent, c'est pour les enfants, recommandé. C'est souvent le cas pour les enfants notamment.
Voilà, oui, c'est recommandé hein, ce test pour dépister les angines bactériennes et être sûr qu'on va traiter, qu'il faut mettre des antibiotiques. Après, c'est vrai que quand il s'agit d'une infection bactérienne et qu'elle est par exemple une pneumonie, vous en parliez tout à l'heure, qu'il y a des enfants qui meurent de pneumonie partout dans le monde avec un grand nombre de cas, là, c'est clair qu'il ne faut pas traîner. Hein, et qu'il faut aussi traiter assez rapidement, parce que si l'enfant traîne 15 jours avec sa pneumonie à la maison, il va arriver à l'hôpital et ce sera déjà trop tard pour mettre les antibiotiques. Mais ça, je dirais que c'est une autre problématique qui, heureusement, j'espère, on rencontre extrêmement rarement en France,
oui.
Mais qui ramène toujours à la même chose, qui est d'aller voir son médecin. Ou de téléphoner. J'entendais qu'il y a des endroits où on peut faire de la télémédecine.
Oui.
Il y a, voilà, utiliser si on a les outils internet, utiliser la télémédecine si on ne peut pas se déplacer. Voilà, c'est toujours... En tout cas, il faut consulter un médecin quand... en particulier un enfant est malade.
Alors, on va revenir justement sur les actions à mettre en place pour essayer de faire reculer ces résistances aux antibiotiques, puisqu'on est tous responsables et on peut tous agir. C'est la raison de cette émission. Alors justement, cette lutte contre l'antibiorésistance, elle nécessite une action globale, puisqu'elle concerne les humains, les animaux, mais aussi l'environnement. C'est important de dire que ça ne concerne pas que la vie humaine.
Tout à fait. Et on sait que dans les élevages, par exemple, si un animal est malade, il va être traité. Mais bien souvent, tous les autres animaux vont être traités aussi. Ça, c'est une chose qui est encore possible en France pour éviter la propagation. Par contre, les traitements antibiotiques, comme ça a été utilisé, ça l'est encore dans certains pays du monde, des traitements antibiotiques de croissance pour faire grandir les animaux. Ça, en France, c'est interdit.
Ouais.
Et par contre, c'est encore beaucoup utilisé dans des pays du monde où il y a de l'élevage en grande quantité.
Ouais.
Et donc ça, bien sûr, ça pollue énormément et la viande qu'on mange et aussi l'environnement avec les antibiotiques. Et puis quelque chose qui est aussi un fort effet propagateur de résistance, c'est le fait de ne pas avoir de traitement des eaux usées et de ne pas avoir de tout à l'égout. C'est-à-dire les gens se baignent dans de l'eau où il y a des matières fécales et des égouts, etc. Donc là, ils sont forcément contaminés dans leur peau, dans leur tube digestif, avec des germes qui ont été exposés aux antibiotiques.
Ouais.
Que ce soit dans la ville ou dans l'hôpital, et ils retrouvent ça dans les matières fécales et dans les eaux usées. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle toujours le péril fécal pour des bactéries comme le typhus, enfin pour des infections bactériennes.
Ouais.
Ce péril fécal qui existe toujours lié à ce problème de distinction des eaux usées avec les eaux propres.
Ouais.
Ça, c'est aussi très porteur pour les bactéries multirésistantes, ça c'est clair.
Alors, comment prévenir, comment lutter contre l'antibiorésistance, chacun à son niveau? Quels sont les conseils que vous avez envie de donner aux auditeurs qui nous écoutent ce matin?
Ah ben, c'est un petit peu tout ce qu'on a dit ensemble, c'est-à-dire que d'abord, s'ils ont des signes d'infection, c'est-à-dire de la fièvre, en gros, et des... tout ce qui va avec en termes de symptômes, quel que soit le site de l'infection, ils consultent leur médecin qui va décider s'ils peuvent prendre un antibiotique ou pas. Ensuite, une fois qu'ils ont une prescription d'antibiotique, il faut qu'ils la prennent exactement telle qu'elle a été prescrite, c'est-à-dire aux horaires où ça a été prescrit, pas se dire ce midi, j'en prends pas parce que je peux pas, et donc je la prendrai ce soir, quand c'est une prescription 3 fois par jour, par exemple, et puis la prendre la durée que ça a été prescrit. Et si jamais...
Là, c'est important d'insister sur ce point.
Alors, la durée, c'est-à-dire que si,
6 jours de traitement,
si ça va mieux au bout de 2 jours, ne pas arrêter le traitement.
Ouais.
Et puis, si un jour, un mois après, ça va à nouveau pas bien, ou si son enfant va pas bien, comme vous le disiez tout à l'heure, ne pas reprendre le reste de la boîte qui est dans la pharmacie pour le donner. Hein, vraiment, là, les restes de médicaments, vaut mieux les rendre à la pharmacie reconsulter son médecin, ou prendre avis auprès du pharmacien si on n'a pas de médecin, ou encore une fois, prendre des avis téléphoniques en télémédecine si c'est possible. Voilà.
Alors, les informations utiles sur Internet, et puis n'hésitez surtout pas, on l'a dit tout au long de l'émission, à en parler à votre médecin, votre pharmacien également, pharmacien conseil. Oui. N'hésitez pas à leur parler des antibiotiques, ou leur ramener également, ou leur parler des doses à respecter de l'ordonnance qui vous a été donnée par votre médecin. Donc, c'est important de discuter avec votre médecin et votre pharmacien. N'hésitez pas aussi à aller sur Internet pour en savoir un petit peu plus sur le sujet. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour terminer? Comment on pourrait conclure cette émission?
Je pense qu'il ne faut jamais oublier l'hygiène des mains, l'hygiène respiratoire aussi, quand on tousse beaucoup, de se protéger pour ne pas contaminer tout le monde. Et puis, encore une fois, se laver les mains. Et comme je disais, l'hygiène aussi, tant que possible, des toilettes, etc. Ça, c'est des choses très importantes en prévention des infections.
Alors, on parlait aujourd'hui des antibiotiques et on répondait à la question pourquoi développe-t-on des résistances aux antibiotiques avec notre invitée Anne Berger Carbone, qui est responsable d'unité infection associée aux soins et résistances aux antibiotiques chez Santé publique France. Merci beaucoup d'être venue nous apporter vos éclairages sur ce sujet. Dans un instant, la pause, on retrouve Ambiance Africa juste après, bougez pas.